C'est en 2010 que les œuvres de Freud sont tombées dans le domaine public avec des archives qui sont donc désormais accessibles. Depuis la toute première biographie en 1934, plusieurs dizaines d'ouvrages ont été écrits sur l'inventeur de la psychanalyse. La vie de Sigmund Freud a été de nombreuses fois disséquée, commentée et interprétée. Et l'historienne Elisabeth Rodinesco a profité donc de l'ouverture de ces archives pour se lancer dans une fresque qui vient de paraître, qui raconte l'existence d'un homme ambitieux au cœur d'une histoire européenne singulière. Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre, paraît aux éditions du Seuil. Et Elisabeth Rodinesco, vous êtes l'invitée cet après-midi de La Tête au Carré. Bonjour.
Bonjour.
Freud et la science, bien c'est le thème que nous allons développer ensemble parce qu'il en a énormément. On va donc se concentrer en particulier sur le parcours scientifique de Freud, comment tout ça l'a amené à cette cure par la parole et puis comment également ses thèses sur l'inconscient ont été acceptées ou non par le monde académique et scientifique de son époque. C'est donc l'objet de notre discussion dans quelques minutes avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent en direct sur franceinter.fr et sur Twitter avec les messages courts sur le hashtag l'attaque. Et puis dans la dernière partie, nous accueillerons deux nouveaux candidats qui vont se frotter aux questions scientifiques de notre quiz. Violaine Ballet réalise cette nouvelle Tête au Carré. L'émission a été préparée avec Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et comme tous les lundis, Axel Villard nous a rejoint pour démarrer cette émission. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Vous nous parlez aujourd'hui d'une piste de traitement anti-tabac à base de champignons hallucinogènes. Ça aurait peut-être pu intéresser Sigmund Freud qui fumait beaucoup de cigares, Elisabeth Rodinesco.
Il en est mort.
Ouais.
En fait, c'est des résultats très surprenants pour un traitement à base de psilocybine, le principe actif des champignons magiques, comme on les appelle, les psilocybes, ceux de la chanson de Billy the Kick. Vous vous souvenez certainement
oui.
des paroles.
Oui, oui.
Ça va même vous rester en tête.
Absolument, ouais. Les champignons hallucinogènes. Hein. Alors rassurez-nous quand même Axel, vous n'êtes pas en train de conseiller à nos auditeurs qui veulent en finir avec la cigarette d'essayer un autre produit comme celui-là qui est complètement interdit. Hein.
Pas encore, mais d'ici quelques années peut-être. L'étude dont je viens vous parler est parue dans le Journal of Psychopharmacology vendredi. C'est une étude préliminaire, donc aucune conclusion à en tirer, seulement des pistes. Tout se passe à Baltimore où une équipe de chercheurs en psychiatrie comportementale a mis en place un protocole très nouveau sur 15 fumeurs. Hommes et femmes, motivés pour arrêter et ayant déjà essayé et échoué plusieurs fois. La méthode est simple, une thérapie comportementale classique en 5 séances, accompagnée de 2 ou 3 prises encadrées de psilocybine. Écoutez le professeur Matthew Johnson, premier auteur de l'étude. Je l'ai joint ce week-end au téléphone et il vous raconte lui-même les séances.
Dans notre laboratoire, il y a une pièce très confortable avec un canapé, de jolis tableaux sur les murs et un tapis oriental. Le jour de la prise, après leur avoir posé quelques questions et avoir mesuré leur pression sanguine, nous leur donnons la capsule de psilocybine. Quand la drogue commence à faire effet, nous leur demandons simplement de s'allonger et de mettre un casque avec de la musique sur les oreilles. On leur dit, vous pouvez penser à la cigarette, mais le plus important est de vous relaxer et de vous laisser partir. Tout ce que nous faisons, c'est de leur apporter notre soutien et de les encourager à chercher les mots pour décrire ensuite leurs expériences, qu'elles soient positives, négatives, ou étrange pour qu'ils en tirent quelque chose et y fassent attention.
Alors, vous parliez de résultats surprenants, Axel. Est-ce qu'ils ont tous réussi à arrêter de fumer ou pas avec cette méthode ?
Non, pas tous. Seulement 12 sur les 15 ont réussi, ça fait 80%. À titre de comparaison, les médicaments anti-tabac qui existent comme le Zyban ou le Champix à base du bupropione, un autre psychotrope, ont des taux de succès de 35 à 40%, mais sont très critiqués.
Vous aviez entendu parler de ça, Elisabeth Rodinesco, ou pas ?
Oui, bien sûr, pas seulement
mais
de
c'est
ça.
C'est la cure par la parole aussi, hein, finalement.
Oui, on peut le dire comme ça, mais il faut quand même savoir que, quel que soit tous ces traitements, toutes ces interventions. Premièrement, le fait d'être pris en charge par la parole, pour tout toxicomane, compte énormément.
C'est ce que disent les chercheurs.
Énormément. Oui. Alors, les drogues aident, mais ce n'est pas central. Bon. Et deuxièmement, quand quelqu'un veut vraiment, a le désir vraiment d'arrêter, il peut arrêter. Mais vraiment, même sans ce soutien-là. Moi, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain, quand j'ai trouvé que ça commençait à m'énerver, et voilà. Je pense que... Et alors, quand il y a des traitements qui échouent tout le temps, c'est parce que le sujet est habité vraiment par un désir d'aller très mal. Et ça, on ne peut pas lutter complètement contre ça.
Et alors Axel, on sait pourquoi cette psilocybine agit sur l'addiction justement. Il y a quand même des résultats importants. Hein. 80% quand même arrêtent de fumer, donc c'est pas rien.
On ne sait pas vraiment.
C'est parce que la vraie raison, ils sont pris en charge.
Oui, les chercheurs étaient très surpris par les taux de réussite et ils se sont décidés à tester la psilocybine après qu'on leur ait rapporté plusieurs cas de personnes ayant arrêté de fumer après des prises récréatives du champignon. Il y avait aussi des sevrages d'héroïnomanes ou d'alcooliques, mais personne n'avait vraiment testé le champignon. La seule chose que m'est rapporté le professeur Johnson, c'est que les participants ressentaient après les séances comme une reconfiguration de leur habitude, un peu comme après une séance d'hypnose, leur conscient reprenant en quelque sorte le dessus sur des actes automatiques. Ils géraient beaucoup mieux leur manque. Après, d'autres études sont en cours à Baltimore. Mmh. Et dernière précision, la prise de psilocybine sans l'accompagnement et la thérapie qui vont avec, selon les chercheurs, c'est inefficace et surtout dangereux. Ouais. Donc comme on dit, ne faites pas ça chez vous.
Voilà. Si Freud n'avait pas fumé des dizaines de cigares tous les jours, justement...
Il faut mettre autre chose à la place de la drogue.
Oui, oui, oui. Alors justement, si ça peut aider. Vous dites qu'il fumait combien ? Une vingtaine de cigares par jour, Freud, c'est ça ?
Une vingtaine de cigares. Ouais. Il avait d'ailleurs une tendance un peu à la toxicomanie. Il avait pris d'ailleurs
de la cocaïne.
Oui. Attention, à une époque où on ne connaissait pas encore ce qu'était la cocaïne, puis il a arrêté, il n'en prenait pas beaucoup. Mais en revanche, en effet, il était tout à fait tabagique. Pour autant, est-ce que c'était une toxicomanie au sens où on l'entend aujourd'hui ? Aujourd'hui, on considère le tabac vraiment comme le monstre absolu. Oui, on a raison, c'est vrai. Mais en même temps, cette époque-là était de consommation. Voilà. Et Freud était parfaitement conscient de cet état. Il ne pouvait pas se passer de cigare.
Ouais, et il en est mort, effectivement.
Puisqu'il a eu un cancer du maxillaire.
Voilà, évidemment, bouche et de la langue.
Évidemment. Pas le maxillaire. Ouais.
Allez, on se retrouve dans un instant. Elisabeth Rudinesco, Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre. Et Axel, ce sera lundi pour la prochaine chronique.
À lundi.
Merci. Hello, hello, view avec les Doors à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Sigmund Freud, en son temps et dans le nôtre, aux éditions du Seuil. Cette biographie vient de paraître. C'est vous qui en êtes l'auteur, Elisabeth Rudinesco. Vous êtes historienne, directrice de recherche à Paris 7. On va s'intéresser en particulier avec vous au lien entre Freud et les sciences. Et puis les auditeurs vont nous rejoindre avec des messages sur franceinter.fr. Je le disais tout à l'heure dans la présentation, donc les œuvres de Freud sont tombées dans le domaine public en 2010. Donc beaucoup d'archives maintenant sont disponibles. Est-ce que du coup, toute cette matière a nécessité d'écrire une nouvelle biographie ?
Oui, il fallait.
Il y avait suffisamment d'éléments nouveaux ?
Pas seulement parce qu'il y avait des éléments nouveaux, mais parce que la dernière biographie, 25 ans, de Peter Gay, puis ensuite un latino-américain qui a fait qu'un travail historiographique sans aller aux archives, il faut aussi donner un éclairage nouveau. Il n'y a pas que l'archive. Mon objectif était de désinterpréter tout ce qui avait été dit de Freud, parce que des accumulations de générations de psychanalyse, hagiographie, plus des générations d'antifreudiens radicaux avaient transformé Freud en un monstre.
Ouais. Donc voilà. C'est la figure du saint et puis c'est à la fois la personne qu'on attaque.
La figure du saint ou la figure d'un monstre. Bon. Mais c'est un monstre des deux côtés. Mmh. Et donc, il fallait reprendre à la base, et ma base à moi, c'est on reprend Freud historiquement. Et d'ailleurs, en note, chaque fois que je ne suis pas d'accord avec une interprétation qui a été donnée, qui sont souvent des fantasmes, je le mets en note. Et donc, la mise à plat dans un récit historique où on voit en outre comment Freud est un produit de son époque, comment il pense son époque et comment son époque le construit. Et ça, c'était, je pense, tout à fait nécessaire. En tout cas, moi, j'en ai éprouvé la nécessité, ce n'était pas évident. Au départ, je dois beaucoup à mon éditeur, Olivier Bétourné, qui m'a poussée, puis à Jacques Le Goff, que j'avais rencontré, parce que j'hésitais. Hein. Voilà. Les archives nouvelles touchent surtout les patients. On ne pouvait pas encore avoir accès. Ça touche beaucoup de choses, puis des choses très intéressantes.
Il y a eu de vraies découvertes pour vous ?
Non, pas vraiment. Des découvertes que j'attendais. Il n'y a pas de scoop nouveau qui ferait changer tout. Mais ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. En revanche, il y a encore à explorer toutes les cures qui ne sont pas explorées. J'en ai fait quelques-unes. Et puis surtout, moi, mon objectif était de montrer que Freud avait lui-même construit une magnifique légende autour de lui-même. C'est normal, il fait un mouvement. Il fallait qu'il se propulse comme un conquérant qui a fait un mouvement magifique, messianique.
Tout ça, jeune d'ailleurs, il a cette ambition de devenir
de
une icône.
Ouais. Et de Gaulle.
Non, mais Freud, dès l'âge de 16-17 ans, il veut devenir quelqu'un de très important et il veut proposer une grande découverte.
Oui, il est habité dans cette famille juive de Galicie, de commerçants modestes. Freud naît déjà très intéressé dans son enfance par tout, par la culture. Et comme c'est une famille très typique de l'époque dont je parle beaucoup, on pousse les fils à aller vers, c'est les familles juives, donc les commerçants, on pousse à aller vers le monde intellectuel. Ouais. Les juifs viennois, les enfants de cette bourgeoisie très particulière de la belle époque, bourgeoisie juive, sont destinés à être avocats, médecins évidemment, hommes politiques, intellectuels et tout. Et donc d'aller vers des métiers intellectuels. Et comme il est très, très bon à l'école, comme il est très doué, que les études lui plaisent, il est poussé par sa mère et son père d'ailleurs, qui l'admirent beaucoup. Et c'est la science. Et à l'époque, ce qui est dominant pour lui, ce n'est pas la philosophie à ce moment-là, c'est le modèle darwinien, importé par Ernst Haeckel, et puis le modèle physiologique. On est, si vous voulez, dans l'ère pastorienne, dans l'ère de Claude Bernard, dans le matérialisme, dans l'idée que le corps a une importance absolument capitale.
On va y revenir.
Contre la religion.
Darwin est une des grandes figures, évidemment, pour Freud. Encore un mot sur cette biographie, ce travail que vous avez mené, Isabelle Troudinesco. Est-ce que c'est la réponse que vous promettez à Michel Onfray, justement, par rapport à son livre Le crépuscule d'une idole, la fabulation freudienne, et à ce déboulonnage en règle qu'il avait donc
J'avais pas promis de réponse. J'avais été.
Ah si, vous disiez, je vais quand même écrire quelque chose pour lui répondre.
Je l'ai fait à l'époque. Ouais. Voilà. Et puis ça s'est imposé. Quand j'ai entendu des médias dire que Freud était fasciste nazi, qu'il avait été le médecin de Göring et qui violait sa belle-sœur, il avait engrossé quand elle avait 58 ans, j'étais atterrée. J'étais atterrée qu'on puisse écrire des choses aussi folles. À une époque où l'historiographie américaine était devenue assez raisonnable. On était déjà à une époque où l'antifreudisme radical ayant succédé à la géographie exagérée, on devenait beaucoup plus historien. Et donc on a eu là un phénomène très bizarre, très français, quand même. J'étais atterrée. Et puis ça s'est imposé progressivement, en effet. Je me suis dit, on ne peut pas laisser Freud être réinterprété en permanence à partir de la psychanalyse, parce que par certains côtés, Onfray fait de la psychobiographie psychanalytique. Hein. Il impute à Freud des choses absolument imaginaires. Mais comme en plus il n'a pas travaillé sur les archives, il comprend.
Enfin, pour lui, c'est une nouvelle hagiographie en tout cas.
Écoutez, il a déclaré qu'il n'avait pas besoin de lire mon livre pour savoir ce qu'il y avait dedans. Bien. Comme on se connaît très bien, je trouve un peu ridicule de déclarer des choses comme ça, tout de même. Moi, je lis les livres, et je lis, j'ai beaucoup lu, j'ai à peu près lu autant toute la littérature anti-freudienne qui existe depuis longtemps, puisque l'histoire de la haine de Freud a une histoire.
Justement, la science par rapport à Freud, là aussi, est-ce que finalement, ce n'est pas le grand échec de la vie de Sigmund Freud, c'est de n'avoir jamais été accepté comme un scientifique à part entière? La psychanalyse n'a pas été enseignée à l'université. Est-ce que ça, c'est une grande blessure justement
oui,
pour lui?
C'est une blessure, et en même temps, on se rend compte de la manière dont je le raconte, qu'il veut faire science et qu'il invente des mythes. Voilà. Et des mythes fabuleux. Voilà. Au fond, il dit à chaque névrosé qui est soigné par des méthodes, à l'époque, comportementales, on va dire, il dit vous êtes des héros, vous êtes Édipe, vous êtes Hamlet. Donc il ramène quelque chose qui fait que ce névrosé de la belle époque, absolument dans un malheur mélancolique, comme on trouve dans les romans de Proust ou de Thomas Mann, est revalorisé par l'idée qu'il va parler de son malheur et qui ressemble à des héros de l'Antiquité. Mmh. Mais en même temps, Freud a en horreur la religion, il a en horreur l'obscurantisme, et donc il veut faire basculer sa théorie, non pas du côté d'une philosophie, parce qu'il n'aime pas la philosophie, en quoi il a tort, mais du côté d'une science de la nature.
Oui.
Et ça, c'est impossible. C'est absolument impossible. Alors, il a tout pour le faire, puisque au départ, il est neurologue, il appartient à l'école physiologique viennoise, et il va obliquer du côté des maladies nerveuses. Mais vous savez, il n'y a pas que lui qui n'a pas fait science. Au fond, quand on prend Jeannet, tous les psychologues de son époque, c'était la grande question, même quand il va en Amérique. Est-ce une science des neurones, cette approche de l'inconscient, ou est-ce une science de l'esprit? Est-ce une science du psychique? Et par certains côtés, il construit une science du psychisme, comme la sociologie construit une science des sociétés. Sauf que ce n'est pas de la science, pas des sciences. Sur l'université, en effet, ça a été, il s'est trompé. Il s'est trompé. Il pensait que...
On enseignerait la psychanalyse.
Non, il pensait... La psychanalyse est enseignée dans les universités. Elle est enseignée dans les départements de lettres, très longtemps dans les départements de psychiatrie, encore un peu, et de psychopathologie. Lui, il rêvait qu'elle soit une discipline à part entière, enseignée par des psychanalystes comme discipline. Elle n'a jamais pu s'imposer comme une discipline, elle est restée une psychologie, bien qu'elle n'en soit pas, et ça a été en effet un problème. Est-ce que s'il avait eu une attitude différente, il en serait de même? Oui. Je le pense.
Ouais. D'autant qu'il avait une grande ambition, parce qu'il s'inscrivait quand même dans un excès d'humilité entre Copernic et Darwin, précisément.
Hein.
Il parlait de la troisième grande blessure narcissique. C'était l'inconscient, en fait. C'était Freud.
Oui.
Il y avait Copernic, Darwin et lui.
Oui, il a construit un mythe. Mais attention, est-ce que les mythes sont des choses fausses? Pas forcément. Vous avez une vérité du mythe. Quand Freud invente qu'il est l'héritier d'une déconstruction, en quelque sorte, du narcissisme humain après Copernic et après Darwin, c'est pas complètement faux. L'inconscient existait avant lui, il y a plein de théoriciens de l'inconscient, mais il a amené quelque chose de très particulier. Il a peuplé cet inconscient de figures mythiques, romanesques. C'est un extraordinaire écrivain. Mais, en effet, la science, ça n'allait pas. Et puis, je dirais plutôt qu'il est contemporain du socialisme, du féminisme et du sionisme, c'est-à-dire de mouvements d'émancipation. La terre promise de Freud, c'est on va faire comprendre au sujet de tous les pays du monde qu'ils sont agis par leur inconscient, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. C'est une très belle idée.
Oui.
Pendant que d'autres veulent changer la société, d'autres changer la relation entre les sexes. Et il construit un vrai mouvement avec des disciples, il leur donne des bagues, c'est assez intéressant. Modèle société secrète, modèle messianique, mais rationaliste. C'est très viennois aussi. Ce sont des juifs déjudaïsés, des juifs des Lumières, qui veulent plus de la religion, mais qui sont habités par l'idée que quand on est juif, c'est-à-dire un peuple opprimé, ils se réclament de Spinoza, un peuple opprimé, on doit affronter l'adversité et construire quelque chose qui fait qu'on surpasse l'humiliation. Il faut inscrire Freud dans ce mouvement-là. Et puis dans le mouvement de la fin de la famille patriarcale qui commence, hein, c'est du temps long. Freud a parfaitement conscience que le modèle patriarcal traditionnel ne va pas. Et donc il est à la fois un rebelle à l'ordre établi et un conservateur de l'ordre établi. Cette double figure.
Alors il y a beaucoup de figures.
Fasciné par l'irrationnel. Fasciné par l'irrationnel, ouais, ouais. Mais c'est évident.
Et la magie est justement...
Il est fasciné, ouais. il veut les comprendre.
Alors Freud, il y a beaucoup de figures qui comptent pour lui, des figures évidemment mythiques, des grandes figures de la science, Darwin oui. par exemple, évidemment, et puis des figures de son temps, et c'est le cas de Charcot, évidemment. Il y a une admiration pour lui qui est très importante. Ça permet d'abord à Freud de découvrir cette école française, spécialiste de l'hystérie. Voici un extrait pour parler de Charcot, de Freud, Passion secrète.
Ce Charcot, c'est une ville ou un homme ?
Un homme, un génie. Il est à Paris, il cherche, il explore le domaine de l'hystérie. Et à certains phénomènes mentaux qui défient toutes les règles de la science, la plupart d'entre nous les nient, pas Charcot. Il a eu le courage de réfuter l'axiome selon lequel la pensée et le conscient sont une seule et même chose. Il a prouvé sans équivoque que l'esprit peut penser dans un état de sommeil artificiel provoqué par l'hypnose. Oui, il ose avoir recours à l'hypnose, c'est une hérésie pour la science.
Voilà, Passion secrète, donc Freud, Passion secrète de John Huston en 1964.
D'après un scénario de Sartre.
Ouais, Freud part à Paris donc pendant plus de 4 mois. Il y a cette rencontre avec Charcot qui était vraiment décisive dans son parcours. Hein.
Oui, beaucoup de... À Vienne aussi, on s'intéressait au phénomène de double conscience, à l'hystérie. Mais Charcot avait une ampleur. D'abord le physique de Charcot, la manière de régner, c'est la grande médecine hospitalière des patrons. C'était en plus un grand neurologue. Donc s'occuper des hystériques, montrer que ça ne relève pas de la neurologie, c'était très fort, justement. Charcot dit, on provoque les symptômes hystériques sous hypnose, et puis on les enlève. Donc ça veut dire que c'est une maladie fonctionnelle. Et là, en effet, ça va passionner Freud de cette rencontre avec Charcot. Et du coup, il se trompe, d'ailleurs, parce qu'il revient à Vienne en faisant l'apologie de Charcot, sans s'apercevoir, enfin, en vantant les mérites de Charcot, alors que les médecins viennois s'occupaient aussi de l'hystérie. Et puis, c'est vrai que Charcot est passionnant. Il a, c'est le plus grand, un des plus grands neurologues de son époque. La maladie de Charcot, c'est pas psychique. Hein.
Oui.
Donc, bien sûr que ça va jouer. Il aime ses figures de maître. Alors, il admire bien sûr des grands écrivains, Goethe, Charcot, Darwin, des scientifiques. Oui. Il a une admiration sans borne pour Einstein. Ils vont devenir amis d'ailleurs. Il aime la science.
Léonard de Vinci aussi.
Ah, les artistes.
Hein, il s'intéresse énormément à
lui. La Renaissance. Vous savez, c'est un homme du 19e siècle éclairé. Il parle cette langue, c'est surtout un Européen. J'ai voulu donner à mon livre une tonalité à la Stefan Zweig. Un monde qui a été englouti après 1914. Ce monde des intellectuels européens qui englobait l'Italie, l'Allemagne, les Lumières. Freud parle cette langue. Tous ces juifs de cette époque sont cosmopolites, rêvent d'une Europe dont on rêve encore aujourd'hui. Donc Freud dans son temps et dans le nôtre.
Elisabeth Rudinesco, justement, pour comprendre ce parcours scientifique qui a permis justement d'aboutir vraiment à la création de la psychanalyse, il y a Charcot, il y a un passage par Nancy qui est très important, c'est que Bernheim.
Très important.
Parce que ça a donné naissance à la cure par la parole aussi,
absolument.
Cet épisode.
L'école de Nancy reprochait à Charcot de fabriquer artificiellement des hystériques, je résume, hein, fabriquer artificiellement des hystériques et pas les soigner. Alors que Hippolyte Bernheim à Nancy faisait partie d'une très longue tradition dont a parlé très bien l'historien Henri-Hélène Berger de ce qu'on appelle l'héritage du magnétisme. Depuis Mesmer, on traitait tous ces symptômes, c'était des thérapeutes qui les montraient en quelque sorte la nature psychique et surtout ce qu'on appelait le transfert, parce qu'on n'appelait pas encore le transfert. Et par certains côtés, évidemment, Freud est l'héritier de Mesmer, même s'il le nie lui-même. Mais il va rencontrer Hippolyte Bernheim et fait une jonction entre Charcot et Bernheim, qui était évidemment en lutte permanente. Je montre bien d'ailleurs que l'histoire des sciences, c'est l'histoire de conflits permanents entre plusieurs écoles. Vous avez vu, c'est très violent.
Hein. Ouais. Alors, il va abandonner l'hypnose, mais il va garder le divan. Et c'est aussi important dans l'histoire de la psychanalyse. Et ça s'est passé aussi, évidemment, à Nancy. On reste avec vous, Elisabeth Rodinesco. Sigmund Freud, en son temps et dans le nôtre. C'est donc aux éditions du Seuil. On poursuit notre parcours scientifique freudien avec vous dans un instant. Oh.
share your mouthful. I wanna do all the things your lungs do so well. I'm gonna bed into you like a cat bats into a female. Turn you inside out and lick you like a crisp packet.
Every Other Freckle avec Alt J à l'instant sur France Inter. Nous parlons de Sigmund Freud et de science aussi avec Elisabeth Roudinesco. Sigmund Freud et son temps est dans le nôtre, en son temps et dans le nôtre, c'est aux éditions du Seuil. Alors si ce livre n'est pas destiné spécialement à Michel Onfray, est-ce qu'il est destiné aux psychanalystes aujourd'hui?
Oui, qui ont recouvert de charabia pendant des années l'œuvre de Freud, l'œuvre de Lacan d'ailleurs, oui, qui est beaucoup plus difficile à lire, on est bien d'accord. Mais
le charabia dans la psychanalyse, c'est un vrai problème quand même,
oui,
non ?
Oui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème contre lequel j'ai passé mon temps à lutter et surtout transformer cette doctrine en psychologie des familles, en dogme, en, bon, Freud en un espèce de personnage abstrait. Voilà. Écoutez, ça ne les empêche pas d'être des bons cliniciens, je ne vais pas m'insurger contre les psychanalystes, mais c'est vrai que c'est un livre pour eux, c'est-à-dire ouais, retour à Freud. Retour à un Freud historique qui souffre, qui se débat avec les théories de son temps, qui se trompe tout le temps, parce que quand on est dans l'invention de quelque chose, on se trompe tout le temps, ouais, et qui en même temps a une dimension historique. Je crois que le gros problème des psychanalystes depuis des années, et c'est en France notamment, c'est de ne pas vouloir connaître leur histoire. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un grand penseur qui s'appelait Lacan, qui a fait de la structure, qui a déshistorisé Freud pour retourner aux commentaires de texte. Et pas seulement Lacan, on a déshistorisé. Et puis en France, l'histoire de la psychanalyse n'est pas acceptée par les psychanalystes. Elle l'est évidemment par les historiens.
Pourquoi ? Parce qu'il faut s'affranchir de la figure justement de Freud ?
Écoutez, je crois qu'il y a un phénomène très français. On a une des meilleures écoles historiques en France, mais cette école historique française n'a pas pris à bras-le-corps l'œuvre de Freud. Et puis on a une école psychanalytique assez solide. Mais la jonction ne se fait pas parce que la plupart des psychanalystes préfèrent apprendre comme modèle des philosophes. philosophe. J'ai rien contre. Foucault, Derrida, Derrida était mon ami. On peut parler de psychanalyse. Mais il fallait passer à l'histoire. Et les anglo-saxons, ça fait longtemps qu'ils sont passés à l'histoire. Et je pense que maintenant, ils sont en avance depuis très longtemps sur la France, qui s'est dogmatisée parce qu'il y a eu un grand maître. C'est toujours pareil. Il faut savoir maintenant hériter. Nous héritons de Freud, de Lacan, de Mélanie Klein, de tous les penseurs, de John, de tous ceux dont je parle. On n'hérite pas dans un manichéisme. On hérite en étant fidèle et infidèle.
En 2014, Elisabeth Rodinesco, quel est l'état de santé de la psychanalyse en France? On va parler de notre pays. La pratique a beaucoup évolué. Est-ce que les nouvelles pratiques, tout simplement, dans la vie des gens, fait qu'on ne peut plus pratiquer la psychanalyse de la même manière? Aller trois fois chez un analyste, payer des séances assez chères, s'allonger sur un divan. Non,
tout ça est plus possible. Mais attention.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut complètement réadapter?
Il faut réadapter, mais ils sont en train de le faire.
Et comment on fait alors, concrètement?
Aujourd'hui, les jeunes psychanalystes ne pratiquent pas du tout comme ça. Oui. Ils reçoivent les gens sans imposer ce genre de choses. Et puis moi, je vais le dire très clairement, si un psychanalyste dit pas un mot, vous impose des séances trois fois par semaine, n'importe comment, et puis vous prend une somme astronomique et vous garde cinq minutes, il faut partir immédiatement. Bon, la vraie question, c'est de savoir pourquoi il y a des gens qui restent.
Mm-hmm. C'est ce qu'on a fait pendant très longtemps, quand même. Donc, c'était quoi,
non,
de l'escroquerie?
Il y a eu, écoutez, quand il y a des très mauvais médecins, évidemment, comme il y a un ordre des médecins, on peut s'y référer. Mais tout de même, il y a quand même des très bons psychanalystes. Alors, ça existe, je veux bien donner des adresses s'il faut. Mais par ailleurs, il est certain que le modèle de la cure par la parole en ce moment a été très dévalorisé par le tout chimique. Mais vous remarquerez que c'est en train de se retourner. Nous l'avons dit tout à l'heure au début de l'émission. Le tout chimique n'est pas non plus la solution. Et on sait que l'être humain est fait de plusieurs, l'environnement, la parole, la chimie. Et je crois qu'il y a aujourd'hui pas mal de psychanalystes qui ont mené une vraie bataille contre les critères de ce qu'on appelle le DSM, c'est-à-dire d'une psychiatrie trop chimique. Et là, ils ont raison, je les soutiens. Mais il faut aller beaucoup plus loin, en effet. Il faut changer les modalités de la cure. Mais vous savez, ça va se faire.
Est-ce qu'on pourrait imaginer des cures à distance, par exemple, avec un psychanalyste dans un endroit, avec un écran sur Internet qui permette à un patient de s'allonger chez lui?
Oui, ça se fait, tout se fait. Aux États-Unis, ça se fait. Je suis sceptique. Je sais que ça se fait. J'ai le sentiment quand même que pour toute cure, quelle qu'elle soit, et même médicale, l'idée de la confrontation avec la personne réelle est importante. Il faut quand même garder ce modèle. Que par moment, si on a besoin à distance d'avoir un contact, oui, il ne faut pas éliminer. Mais l'idée que ce soit systématique, non.
Bon. Sur Twitter, l'Alouette nous dit ceci. La psychanalyse freudienne n'a rien d'une science, démontrée et démontrable. Comment et pourquoi serait-elle reconnue comme telle? Vous partagez ce sentiment ou pas?
Ce n'est pas une science, mais la philosophie non plus, l'anthropologie non plus, les sciences humaines non plus, la psychologie non plus. Donc, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas reconnue comme faisant partie des sciences humaines, ce qu'elle est d'ailleurs, puisqu'elle est enseignée.
Ce que Freud ne voulait pas d'ailleurs. Il voulait que ce soit une science à part entière, affranchie des sciences humaines précisément.
Voilà en quoi il avait tort. L'histoire a montré le contraire, mais en même temps, les scientistes fous qui expliquent que puisque ça n'est pas une science au sens de la science naturelle, ça ne vaut rien, à ce moment-là, il faut admettre que toute pensée rationnelle de type anthropologie, histoire, etc., ce n'est pas des sciences. Moi, je suis historienne, est-ce que c'est une science? Non, c'est un mode rationnel, c'est une approche rationnelle. Oui. Donc là, ni ayatollah du scientisme, ni ayatollah du religieux.
D'ailleurs, c'est la définition de la psychanalyse, une discipline étrange, est-ce que vous écrivez, à mi-chemin de l'archéologie, de l'analyse littéraire, de l'anthropologie et de la psychologie. Donc, on en voit quelque chose d'assez large quand même.
Oui, elle a nourri à peu près toutes les disciplines et elle continuera. Ce qui est évidemment en ce moment une vraie crise, c'est que les psychanalystes ont tendance, il faut qu'ils se relèvent du sommeil dogmatique, qu'ils se réveillent du charabia, qu'ils renoncent à ce charabia, mais en même temps, je peux recommander des bons psychanalystes.
Vous nous ferez la liste, on la mettra à disposition
Il ne faut pas mettre à la poubelle. De toute façon, moi, je n'ai jamais rien mis à la poubelle, je suis incapable. Je pense qu'il faut hériter de tout, c'est-à-dire de ce qui ne va pas, de ce qui va.
C'est très encombré chez vous?
Comment?
C'est très encombré chez vous, qui ne mettez rien à la poubelle. Vous gardez absolument tout.
Oui, j'ai tendance à... Ah non, je mets à la poubelle des choses. Mais j'adore les archives, donc je garde beaucoup. Vous savez, maintenant, avec l'ordinateur, heureusement, on n'est pas obligé de garder tout dans des placards. Mais j'ai beaucoup d'archives, en effet.
Il y a l'importance des enfants dans la théorie de Freud, et dans sa vie d'ailleurs tout court. Freud décrit la sexualité infantile comme une disposition perverse, polymorphe. On va réécouter justement pour en parler un extrait de Freud, Passion secrète de John Huston.
Messieurs, l'âge de l'innocence est ainsi appelé parce que les enfants sont supposés n'avoir aucune conscience sexuelle. Cette fausse croyance reflète le sentiment de peur et de culpabilité de la société. Dès son plus jeune âge, l'enfant n'est qu'un animal vorace qui veut satisfaire son estomac. Le lait maternel coule doucement dans sa bouche. Il y trouve du plaisir. Plaisir qu'il cherche à prolonger même quand sa faim est satisfaite. Il suce donc un faux bout de sein ou son pouce. La satisfaction qu'il obtient sensibilise la région de sa bouche, de ses lèvres, de sorte qu'elle devient bientôt une zone érogène. Laquelle, dans la vie d'adulte, trouve du plaisir dans le baiser. On baigne l'enfant, il est choyé et caressé par sa mère. Tout son petit corps répond à ses tendres soins. Son désir pour le sein de sa mère, graduellement, devient un désir pour la mère elle-même.
C'est indigne ! C'est honteux ! Vous salissez toutes les mères !
Voilà, Montgomery Clift, donc, dans ce rôle de Freud, Passion secrète de John Huston. Alors, on le voit là, il y a à la fois les convictions de Freud.
Scène entièrement inventée par
voilà.
Sartre.
Mais
les fictions disent de la vérité.
Mais on entend la conviction de Freud et la provocation, parce qu'il est très provocateur. Et il aime choquer aussi avec ses activités sexuelles des enfants qu'il décrit.
Sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et donc, il faut quand même.
Alors là,
même
c'est
si on aime les fictions, et c'est pas comme ça que ça s'est passé. Tout le monde, à l'époque, il y a 1000 livres, s'intéressent à la sexualité infantile. Tous les savants ont compris que les enfants ont une sexualité. Il n'est pas le premier. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On en a peur. On se demande, et je l'explique, est-ce que les enfants sont fous? Est-ce que les enfants ont le droit de se masturber comme ça? Donc, on la réprime. Les instruments anti-masturbation que je décris sont une chose absolument épouvantable. Ou alors, on la valorise. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que Freud va faire? Il dit au fond, à un moment donné, c'est normal de se masturber quand on est enfant. Ce qu'il faut, c'est que l'enfant passe de l'âge enfant à l'âge adulte. Donc, il s'intéresse aux origines, d'où perverse polymorphe. Chaque humain est un enfant en nous. Chaque humain est un primitif en nous. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est nouveau. C'est d'en faire une norme. C'est d'en faire une norme. Pour autant, il considère que la civilisation passe par la maîtrise des pulsions sexuelles. Alors, il est entendu à l'époque par l'Église, notamment, pas trop par ses contemporains savants, qui écoutent bien parce qu'ils changent de théorie tout le temps. Donc, en réalité, Freud est mieux compris et entendu qu'il ne le dit lui-même. Là, il faut restituer les choses. Mais ce qu'il apporte de nouveau, c'est face d'abord à un vocabulaire charabia de la sexologie de l'époque, qui classait tout en latin. Il apporte quelque chose qui est écrit de façon lumineuse, comme des romans. Et donc, évidemment, il fait effraction de ce côté-là. Et d'autre part, il dit que ce qui a l'air anormal est normal. On est tous potentiellement homosexuels, pervers, etc. Et puis, ça se réaménage dans notre vie. C'est ça qui est nouveau.
Ouais. Mais il montre la cruauté, la barbarie des enfants de moins de 4 ans. Enfin,
évidemment, il a raison.
Oui, bon, enfin, sauf que ça choque,
savez,
évidemment.
Non, mais Diderot l'a dit. Il cite cette fameuse phrase de Diderot, il a dit « S'il n'y avait pas la civilisation et la culture, l'enfant tordrait le cou à son père et violerait sa mère. » Alors, après, il construit ses mythes. Mais il s'intéressait passionnément à l'enfance. Il était, là, il faut le dire, un bon père. Et je le dis, un bon père. Il y a quand même des choses. Bon, il adorait les enfants. Il a soutenu ses enfants qui ont eu beaucoup de difficultés toute leur vie. Il a fait de sa fille une disciple. Et
Anna.
Pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est un destin. Il faut comprendre aussi que les femmes à l'époque, elles avaient du mal. Freud, dans sa vie, c'est un modèle ancien. Il a épousé sa fiancée, il a fait des enfants. Il appartient au modèle ancien du mariage classique d'amour. Et ses enfants vont divorcer, vont être très différents de lui. Et Freud accompagne quand même ce mouvement. Je décris beaucoup la vie de famille, elle me paraît très importante.
Ouais. Vous évoquiez l'homosexualité justement, Elisabeth Roudinesco, au travers d'Anna, sa fille. C'est sa compagne aussi qu'il accepte chez lui?
Oui. Anna a des tendances homosexuelles. Mais le principal dans sa vie, depuis son enfance, c'est qu'elle veut devenir une intellectuelle, ce qui à l'époque n'est pas évident. Elle ne veut pas être comme ses sœurs. Et Freud favorise des disciples femmes aussi, mais pas sa fille. Donc il va prendre sa fille en analyse, c'est là qu'elle va s'apercevoir vraiment de ses tendances homosexuelles. Et en fait, elle va devenir surtout sa disciple et entrer dans le mouvement psychanalytique. Oui. Et évidemment, ce que Freud constate, et ce qu'elle constate elle-même, elle n'a pas du tout envie d'aller vers les hommes. Ça, je dirais que... est-ce que Freud en est responsable? En partie, mais pas complètement. C'était évident avant. Mais surtout, elle veut être mère et elle veut s'occuper d'enfants. Ce qui fait que quand elle va rencontrer Dorothy Bullingham, qui arrive à Vienne avec 4 enfants qui vont très mal, elle va vivre avec Dorothy Bullingham, s'occuper des enfants. Oui. Et Freud dit que c'est une famille supplémentaire.
Et très moderne.
Oui. Hein, mais vous savez, il était conservateur et éclairé. Donc, dans les situations où il est confronté à quelque chose de nouveau, il pense cette chose de façon nouvelle.
Alors, il y a sa fille, effectivement, Anna, mais par rapport à l'homosexualité en général, alors, comment il se positionne? Parce qu'il y a quand même une homophobie absolument effrayante dans la psychanalyse, et d'ailleurs qui a perduré pendant assez longtemps. Comment Freud se positionne là-dessus? Qu'est-ce qu'il en dit, lui?
D'abord, pas d'anachronisme. La question du mariage homosexuel dans les années 1900, ça n'existait même pas. Ça n'existait même pas l'idée chez les homosexuels eux-mêmes. Donc, la question pour Freud était la dépénalisation. Il était favorable. Il a accueilli favorablement Magnus Hirschfeld, qui était le grand sexologue psychanalyste de Berlin. Il était pour la dépénalisation et l'émancipation. Il était favorable à ce que les homosexuels deviennent psychanalystes. Mais il a eu contre lui son propre disciple Ernest Jones, qui était hostile. La moitié du mouvement était hostile, la moitié était favorable. Mmh. D'une manière générale, il pensait l'homosexualité comme on ne la pense plus aujourd'hui. Mais il a changé de position tout le temps, et je le montre. Il essaye de montrer qu'on...
Il en disait quoi? Que c'était biologique? Qu'est-ce qu'il y avait autour de l'homosexualité pour lui?
Il pensait que c'était biologico-culturel, que l'attachement il séparait l'homosexualité féminine de l'homosexualité masculine, montrait qu'elle n'était pas structurée de la même façon. Ça, c'est assez juste. Ça s'est révélé exact. Il montrait surtout, pour un homme, l'attachement premier à la mère. Il s'est trompé sur Léonard de Vinci quand il a analysé le cas, puisque, je l'explique, il croit que Léonard de Vinci a une sexualité faible. Ça n'est pas exact. Mais en même temps, Freud était un homme des Lumières. Il acceptait parfaitement les homosexuels. Il a même écrit à plusieurs reprises que beaucoup de grands artistes l'étaient et que pourquoi pas. Il était plus émancipateur. Enfin, très divisé dans son mouvement. Il n'avait pas toujours raison dans son mouvement. Il était absolument attaqué de l'intérieur.
On termine avec une question de Damien, très vite, en 30 secondes sur Twitter. Est-ce qu'on peut imaginer un logiciel de psychanalyse pour avoir un Freud robotique?
Bon, je réponds pas.
Répondez-lui, c'est amusant, non?
Je ne sais pas bien, je ne connais pas bien.
Vous ne connaissez pas assez la robotique,
pas assez la robotique.
Ni les logiciels pour vous exprimer là-dessus. Bon, ouais. En tout cas, merci beaucoup Elisabeth Rodinesco d'être venue dans cette Tête au Carré. On ne parle pas que de Freud scientifique, évidemment, dans votre livre, mais c'est évidemment un angle qu'on a choisi, parce qu'il y a beaucoup de thèmes abordés. En son temps et dans le nôtre, ce livre vient de paraître aux éditions du Seuil, et il est tout à fait accessible et hors du jargon psychanalytique. Voilà, merci beaucoup d'être passé dans l'émission cet après-midi.
Merci à vous.
Dans un instant, le quiz de la Tête au Carré.
Ah, des filles. C'est bien des filles. Elles sont dangereuses, les filles. Les yeux bleus, les cheveux blancs, la bouche rouge, les mains douces. C'est des filles. Les yeux noirs, les cheveux bruns, la bouche rose. Les mains lisses, les yeux verts, les cheveux roux, la bouche noire, les mains rouges, c'est des filles. Ah, les filles, à ses défis. Les yeux bleus, les cheveux blonds, la bouche rouge, les mains douces, elles sont dangereuses, les filles. Allez les filles, c'est bien les filles. J'adore les filles. Ah les filles noires, brunes, blondes, folles, gentilles, punk rock, sexy et douces.
Des filles Power Solo, et vous êtes sur France Inter dans La Tête au Carré. Des questions scientifiques comme s'il en pleuvait, de la matière grise en pleine action, des auditeurs qui vont s'affronter dans une lutte sans merci. C'est l'heure du quiz de La Tête au Carré avec Florence Porcel, évidemment, à mes côtés, comme chaque jour. Bonjour.
Oui. Bonjour Mathieu.
Le week-end a été bon, Florence.
Mais oui, merci, et le vôtre.
Oui, vous avez bien planché sur des questions.
Ah, évidemment, comme toujours.
Bon. Et on salue chaleureusement Philippe et Élise, qui sont nos deux candidats. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Florence, Mathieu, Philippe.
Bonjour Philippe, vous habitez aux Molières.
Oui, tout à fait. C'est dans l'Essonne, à côté de la vallée de Chevreuse.
Et vous êtes ingénieur dans quel domaine exactement ?
Électronique.
Bien. Élise, vous, de votre côté, vous êtes à Lyon ?
Oui, c'est ça, je suis étudiante en orthophonie. Et donc là, je suis en deuxième année, donc voilà.
Bon.
Il reste 4 ans.
Un petit peu de patience encore. C'est le dernier jour pour tenter de remporter le correcteur orthographique des éditions Le Robert, Florence.
Oui, et évidemment, c'est le joueur qui aura accumulé le plus de points qui remportera ce cadeau.
On démarre bien sûr avec la question d'actualité. Vous allez, Philippe et Élise, entendre un extrait sonore. Et à l'issue de cet extrait, bien sûr, j'aurai une question à vous poser. Le voici.
Happy birthday to you.
Voilà, on vient d'entendre des enfants australiens. Hein.
Australien,
c'était un happy
important.
Birthday avec l'accent australien. Pour Patrick le Wombat, c'est un marsupial australien donc, qui est très mignon. Et cet animal est actuellement le plus vieux de son espèce. Voici ma question. Quel âge vient-il de fêter ? Vous avez 30 secondes, Philippe et Élise, pour me répondre.
50 ans ?
Non. Patrick le Wombat, un marsupial. Le plus vieux du monde. Vous n'avez pas vu ça dans l'actualité récente ?
Non.
Ah, il a une bonne tête.
29 ans ?
Bravo !
Oui.
Oui.
En fait, je vous avoue que j'ai un peu triché, j'ai regardé sur internet, mais sinon j'aurais pas trouvé honnêtement.
D'accord, bien joué. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup ?
Mais oui, la bonne réponse.
Voilà, Patrick le Wombat.
Non,
non, mais c'est tout à fait autorisé. Écoutez, maintenant on utilise internet.
Oui, ouais, on peut pas être derrière vous de toute façon.
Donc, bah,
oui.
Voilà, il y a Philippe qui se dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé ? Voilà, donc c'est donc, évidemment Élise qui était la plus rapide. Voilà,
ouais.
Donc vous pouvez utiliser vos claviers, hein. Ça
bien
fait partie
entendu,
des règles.
Vous tapez très vite. Donc
voilà.
29 bougies hein, pour Patrick le Wombat, ce qui est tout à fait honorable, puisque les Wombats ne vivent que jusqu'à 15 ans maximum quand ils sont en liberté. Mais comme celui-ci a été adopté très tôt par un parc australien et qu'il est tellement cajolé et chouchouté, il pourrait peut-être battre le record de 34 ans en captivité. En attendant, il a 15 000 fans sur Facebook quand même, hein,
ah
si,
oui, c'est
si ça vous intéresse.
Ça fait combien de points pour Élise, ça, Florence ?
Ça fait 10 points.
Voici maintenant les questions de rapidité. Alors là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus compliqué d'aller sur Internet.
Oui,
hein, parce qu'on a 7 questions à vous poser. Donc évidemment, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de regarder les réponses. On commence, Philippe et Élise, vous êtes prêts ?
Prêt.
7
oui,
questions pour
oui,
vous.
Je suis prête.
C'est parti. Depuis 2006, combien de planètes y a-t-il dans notre système solaire ?
10.
Je ne sais pas.
On passe à la question suivante. Avec quelle unité exprime-t-on une échelle d'intensité sonore ?
Décibels.
Oui,
bravo, Philippe.
Philippe. Décibels.
Quel parc américain célèbre pour ses phénomènes géothermiques est le plus ancien parc
national ?
Yellowstone.
Oui.
Bonne réponse, Philippe. Quel gaz compose 78% de notre atmosphère ?
L'azote.
Ou diazote. Bonne réponse. Comment appelle-t-on la méthode permettant de prélever un échantillon de liquide amniotique pour détecter les anomalies du fœtus ?
Philippe, Élise ?
Ponction.
Non.
Ben, on est dans cette idée-là.
Je sais pas.
Oh, vous connaissez ça forcément. Allez, sixième question. Quelle structure microscopique, constituée notamment d'ADN, sert de support à l'information génétique ? Cette structure microscopique, qu'on n'appelle pas pareil selon les hommes ou les femmes. Allez, je vous aide un petit peu. On passe à la dernière question. Quel animal fossile a longtemps été considéré comme le symbole du chaînon manquant entre le dinosaure et l'oiseau? C'est la septième et dernière question, c'est la plus difficile. Comment s'appelle cet animal fossile, longtemps considéré comme le symbole du chaînon manquant entre le dinosaure et l'oiseau? Pas de réponse.
Peut-être revenir à la première question.
Allez, depuis 2006, combien de planètes y a-t-il dans notre système solaire, Philippe et Élise?
9.
Non.
8.
8, Philippe, bonne réponse. Aïe, on arrive à la fin, on n'aura pas le temps de vous poser les deux dernières questions. Alors, comment appelle-t-on cette méthode qui permet de prélever un échantillon de liquide amniotique pour détecter les anomalies du fœtus? L'amniosynthèse?
Oui, bien sûr.
Tout simplement?
Évidemment.
Non, ben, je savais pas.
Quelle structure microscopique, constituée notamment d'ADN, sert de support à l'information génétique?
C'était le...
Si je vous dis Madame XX et Monsieur XY, vous pensez à quoi?
Les chromosomes.
Ah, oui, ben les voilà. Chromosomes.
Et puis enfin, quel animal fossile a longtemps été considéré comme le symbole du chaînon manquant entre le dinosaure et l'oiseau? C'est Florence qui va vous donner la réponse.
C'est l'Archéoptérix. Voilà.
Ah, bien sûr.
Okay.
Une sorte de dinosaure à plumes.
Une sorte de dinosaure à plumes, qui vivait il y a 150 millions d'années. Et c'était le tout premier fossile découvert avec des plumes bien conservées. Voilà.
Voilà. Mais ça n'est plus maintenant, en fait, le chaînon manquant.
Non, non, non.
C'était
non,
celui qui était admis.
Oui.
Et pour l'instant, on ne l'a pas trouvé.
Pour l'instant, on ne l'a pas trouvé encore, non.
Ça nous fait combien de points, tout ça?
Eh bien, ça nous fait 20 points pour Philippe dans cette deuxième manche et toujours 10 points pour Élise.
Bon.
Voilà. Donc Philippe a une légère avance.
C'est donc le moment du mot mystère. Vous connaissez maintenant bien le principe. Vous allez devoir faire découvrir un mot à votre... acolyte, adversaire, candidat,
et ensuite,
mais néanmoins ami.
Voilà, et vous échangerez les rôles, bien sûr. Est-ce qu'on commence par Élise, Mathieu, par
Ça serait pas mal.
Ouais.
Allez, Élise, on démarre, vous avez 45 secondes. Et j'imagine que vous avez regardé sur Internet. C'est parti.
Alors, c'est un endroit dans lequel on va traiter les eaux usées. Et c'est en trois mots. Ça permet de rendre l'eau plus claire.
Il y en a dans toutes les grandes villes, en principe.
Bassin de décantation?
Non, mais on est dans le même esprit, hein, Philippe, vous êtes vraiment très très près. Allez,
alors,
Élise.
Pour le premier mot, ça peut aussi se dire d'un endroit d'où on fait partir les fusées.
Oui.
J'ai pas bien entendu.
Alors, on peut faire partir les fusées, on peut trouver des fusées, on peut...
Qui partent
plateforme,
et qui décollent, en fait.
Non.
Mais je pense qu'on s'éloigne.
Pas tout à fait.
Alors, pensez plutôt à la pollution, à nettoyer la pollution... Aïe.
C'était une station d'épuration.
Oui, bien sûr, c'est évident, je ne vois pas pourquoi je ne l'ai pas trouvé.
Eh oui, vous étiez vraiment proche du but, oui. Philippe. Hein. Tout de suite, hein, vous avez quasiment trouvé. Et puis ensuite, on s'est un petit peu égaré avec la fusée, malheureusement, qui nous a emmené trop haut. Allez, Philippe, c'est à vous. 45 secondes pour faire découvrir le mot mystère à Élise. C'est parti.
Donc, en principe, ça doit être beaucoup plus facile. C'est un instrument qui sert à mesurer la pression atmosphérique.
Alors, vous pouvez ajouter quelques éléments, Philippe, quand même?
Un instrument qu'on a souvent dans son salon et qui indique la tendance de la météo des jours à venir.
Un baromètre, Élise a donné la bonne réponse. Bon, les points vont à Élise. Mais alors, ça nous fait quel score,
ça? Mais alors, ça nous fait 20 à 20.
Eh oui, c'est ça.
Vous êtes ex aequo, Philippe et Élise. Il va falloir vous départager maintenant.
Alors, nous avons une question. Là, il va falloir être très, très rapide. Vous êtes prêts? Je vous pose cette question pour vous départager. Allez, c'est parti. Combien d'hommes, hélas aucune femme, ont marché sur la Lune? C'est celui qui donne la réponse. 12, bonne réponse, Philippe.
Pour Philippe, voilà. Bravo. Qui remporte donc ce
Bravo,
jeu.
Philippe.
Voilà, 12, effectivement, on n'y pense pas. Hein. Il y a les trois premiers, les deux premiers, Buzz Aldrin et Armstrong, qui sont les plus connus. Et puis on oublie qu'il y a eu d'autres missions
jusqu'à Apollo 17 en décembre 1972. Et le dernier était Eugène Cernan. Voilà,
ça fait donc 12 bonhommes. Et
exactement.
Pas de femmes encore. Vous serez peut-être la première,
J'espère
Florence.
Bien, oui, bien
Je
sûr.
Je sais que c'est votre rêve.
C'est mon rêve, effectivement.
Voilà.
Toutes mes félicitations, Philippe. Donc vous repartez avec le correcteur orthographique des éditions Le Robert.
Merci.
Alors c'est un
logiciel. Est-ce que je peux l'offrir à Lise?
Oh, bah c'est sympa,
oh,
ça.
Bah, bien sûr, vous pouvez l'offrir à Lise. Bah voilà, Élise,
voilà,
vous avez un...
Je crois que j'en ai pas trop besoin, je fais pas trop de fautes d'orthographe.
Et puis ça lui sera peut-être utile pour ses études. Je vais être orthophoniste, j'aurai peut-être des patients qui en auront besoin.
Bon, bah, c'est un cadeau qui va se transmettre de personne en personne.
C'est formidable.
En tout cas, merci
c'est
Philippe,
très jolie surprise,
bon esprit,
oui,
bravo.
Oui, absolument.
Et bien, donc on va l'envoyer
à Élise. Du coup.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci à vous, merci pour votre émission.
Passez une excellente journée et puis bien sûr pour tous les candidats potentiels et futurs qui souhaitent jouer avec nous, Florence.
Il faut s'inscrire sur le site internet de l'émission sur franceinter.fr.
À demain.
À demain.
Voilà, je vous donne le numéro de téléphone également du répondeur de La Tête au Carré, puisque dorénavant, vous pouvez laisser vos messages que nous diffuserons dans les jours qui viennent. 01 56 40 69 47, 01 56 40 69 47, pour à votre tour nous mettre La Tête au Carré.